Depuis le début de la semaine, nous allons continuer à décrypter l'ampleur médiatique que prend l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et ce matin, nous allons nous intéresser aux théories du complot qui fleurissent sur Internet. Elles concernent l'affaire Dominique Strauss-Kahn, mais ce ne sont pas les seules. Hein. Il y a eu également cette théorie du complot sur la mort de Ben Laden. On nous disait qu'il n'était pas vraiment mort sur le 11 septembre également. Et à chaque fois, c'est Internet qui est au cœur de ces théories du complot. Pour en parler avec nous, Guy Berenbaum, journaliste spécialisé d'Internet, que vous entendez régulièrement sur Europe 1. Bonjour Guy.
Bonjour Jean-Marc.
Et Edouard Filias, directeur associé de l'agence Images et stratégie, auteur de livre e-réputation sur Ellipse. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également Arnaud Dacier, vous êtes ancien directeur de la campagne web de Nicolas Sarkozy, actionnaire du site internet Atlantico, et vous êtes une des personnes dont le nom a circulé dans cette théorie du complot pour une raison très simple, c'est que vous êtes, si mes informations sont bonnes, le deuxième au monde à avoir fait circuler cette information sur DSK arrêté à New York dimanche. Deuxième au monde, c'est-à-dire avant même les journaux américains.
Voilà, il semblerait qu'on ait battu le New York Post d'une bonne heure. Par une heure et demie.
Et comment expliquer que l'ancien directeur de campagne web de Nicolas Sarkozy est le deuxième au monde à donner cette info? C'est ça qui alimente la théorie du complot?
Oui, bien sûr, c'est une coïncidence troublante. Quand vous tweetez...
Vous êtes d'accord pour dire que c'est troublant?
Ah, bien sûr, moi-même je suis troublé.
Ouais.
Quand vous tweetez, vous ne savez pas ce que font les autres puisque vous ne suivez que quelques centaines de personnes. Quand je retweete, je pense que cette information, elle est peut-être en train de circuler déjà depuis un moment. C'est la première fois que je la vois moi, mais moi je n'en sais rien.
Vous la récupérez d'où cette information? Pour que ce soit clair pour les auditeurs.
Je la récupère de Jonathan Pinet, qui est un jeune garçon que je suis depuis la veille.
Donc ça tombe bien.
Ça tombe bien, parce qu'il m'a défendu dans
qui est un jeune militant UMP.
Car il m'a défendu sur la théorie du complot précédente de la Porsche, parce que moi je suis en pleine théorie du complot de la Porsche, puisque j'ai aussi été le deuxième à retweeter la
Porsche
après Emery Doliger.
On prête corrige.
On prête corrige. Donc je suis à fond. Je suis en train de live tweeter l'Eurovision avec Guy Berenbaum.
Absolument. Je confirme. Nous étions en train de dialoguer sur Internet en regardant ce magnifique concours de l'Eurovision.
Donc j'ai les yeux rivés sur mon Twitter. On s'échange des blagounettes sur les candidates borduriennes et sildaves. Et à ce moment-là, je vois sortir ce tweet sur DSK qui m'intéresse au premier chef puisque je suis en plein dedans. Et je le retweete immédiatement. Là, je joue mon rôle de diffuseur d'informations auprès de mes
followers. Vous le retweetez sans savoir si c'est vrai ou pas?
Bien sûr, parce que là, je ne m'engage pas. Je retweete le tweet de quelqu'un d'autre avec son nom.
Ça fait circuler une information.
Arnaud, vous l'avez appelé entre les deux.
Je retweete d'abord son tweet. Et donc, je rediffuse, je relaie. Et on voit bien que c'est pas moi. Je ne fais que relayer sur Twitter, c'est clair.
Et après, vous l'appelez?
Après, je lui envoie un petit... sur la messagerie privée Twitter, je lui pose des questions.
Il faut expliquer aux auditeurs. Il y a une messagerie privée qui permet de s'adresser
en tête à tête
à ceux qui se suivent les uns les autres, hors de la vue de tout ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire tous les gens qui sont sur Twitter. Donc, on peut tout à fait sur Twitter parler en privé à quelqu'un.
Et donc, je lui demande... quelle est la fiabilité de ta source et quelle est la nature de l'agression? Il me répond et je tweete prudemment apparemment DSK à New York, c'est du très très lourd, et je repars tout de suite sur l'Eurovision.
Guy Berenbaum.
Alors, moi j'étais plus là, hein, puisque on était un peu, je suis pas sûr que soit l'Eurovision n'était pas terminée.
23h40.
Enfin, oui, c'est enfin moi j'étais plus là. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans la mécanique qu'a décrite Arnaud et qui est parfaitement exacte, moi je ne crois pas qu'il y ait un complot. Voilà. Je vais être très clair, il n'y a pas de complot.
Donc c'est un hasard si les deux premiers à tweeter cette information au monde sont deux membres de l'UMP?
J'ai pas terminé. Il n'y a pas de complot. Je veux dire, qu'est-ce que ça voudrait dire un complot, Jean-Marc? Allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est le complot? Ça veut dire que nos amis jeunes UMP ont organisé un coup au Sofitel de New York, ou alors que les services secrets, les premiers qu'ils ont informés, c'est les jeunes de l'UMP. Moi, je les connais pour le LibDub, c'était pas fameux. Je les vois pas trop avec Benjamin Lancard se lancer dans les services secrets. Vous voyez, niveau crédibilité, c'est quand même assez peu probable. En revanche, ce qui m'intéresse, et c'est là où moi j'ai même des questions à poser à Arnaud, c'est que moi, si j'avais été à sa place, j'aurais été peut-être un peu plus loin dans ma connaissance de l'information, et plus que dans ma connaissance de l'information, j'aurais été plus loin dans ma connaissance de la source. Parce que ce qui se passe, qu'on n'a pas tout à fait précisé là, c'est que le jeune Jonathan Pinet, dont parle Arnaud, tient son information d'un ami, qui lui-même tient son information, vous m'arrêtez si je me trompe Arnaud, de quelqu'un qui nous dit qu'il est à l'hôtel et qui travaille à l'hôtel Sofitel. J'ai bon ou j'ai faux jusque-là?
C'est ce que Jonathan Pinet m'a dit.
Bien. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, si j'avais été dans cette situation, et je m'interroge donc, je voulais poser cette question et je suis content d'avoir Arnaud en face de moi, ben moi, je serais remonté plus haut. Est-ce que, Arnaud, vous pouvez nous dire si vous êtes remonté plus haut, si vous avez été jusqu'à tenter de savoir qui était la source dans l'hôtel? C'est très important, Arnaud. On est dans une enquête criminelle.
Oui, alors, moi, je ne suis d'abord, première précision, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas tes réflexes, évidemment. Deuxièmement.
Je ne suis pas journaliste, en fait, non plus, mais ce n'est pas grave.
Ah, bon, c'est pas. Bon,
tout le monde m'appelle journaliste, ça fait plaisir, mais ce n'est pas grave.
Quelqu'un hier m'a dit que je méritais la carte de presse, mais bon.
Oui, oui.
On a sorti hier, un des contributeurs d'Atlantico a sorti hier une première piste, puisqu'il semblerait qu'on soit remonté sur la source de Jonathan Pinet. Mais on n'est pas encore remonté sur la personne de l'hôtel.
Et en quoi c'est important, cette source, Guy ?
Parce que, dans le cadre de cette enquête criminelle, nous avons quelqu'un qui est au courant dans l'hôtel très tôt. On est d'accord ?
Oui, puisque manifestement, il diffuse son information à peu près au même moment où l'arrestation a lieu à l'aéroport.
Bon, vous vous rendez compte, Jean-Marc ?
Enfin, en même temps, s'il se passe un événement comme ça dans un hôtel, ça doit se savoir par les gens de l'hôtel.
Il est de l'hôtel.
La
police de New York est à l'hôtel depuis le début de l'après-midi. Ouais. Hein.
Je voudrais juste préciser une chose, c'est Jonathan Pinet, moi je l'ai eu hier, et il ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire parce que c'est un étudiant qui est en train de passer ses examens et en gros, son discours.
Un étudiant qui travaillait à l'UMP et qui fait partie des gens qui ont monté un site qui est l'Observatoire des mensonges de la gauche.
Tout à fait, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Bien sûr.
Qui m'a dit qu'il souhaitait passer ses études et qu'il veut rester loin de tout ça et qui est un peu visiblement dépassé pour tout ce qui
clairement.
Se passe autour de lui et autour de cette affaire. Et Edouard Filias, quel est votre regard, vous, sur tout ça ?
Moi, je pense que quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé en l'occurrence parce que Twitter, sur tous les événements d'actualité importante ces dernières années, a été le premier à sortir l'information. C'est-à-dire que c'est l'info chaude, l'actu sort par Twitter. Premier élément. L'Iran, les révolutions dans le monde arabe, le crash de Hudson River, tout ce que vous voulez. Le deuxième élément, c'est que Twitter est un outil de veille plus que de commentaire de l'actualité. C'est-à-dire que les gens utilisent Twitter pour surveiller ce qui se passe. Arnaud est très préoccupé par Dominique Strauss-Kahn parce que la semaine qui précède l'événement, il y a cette affaire de la Porsche, il est mis en cause. Donc il a le regard braqué sur Twitter pour surveiller tout ce qui se dit sur Strauss-Kahn. Ça me semble donc assez logique. C'est probablement une des personnes les plus concernées en France par Dominique Strauss-Kahn. C'est donc assez logique.
Pas seulement pour ça.
Pas seulement pour ça. C'est donc assez logique qu'il soit parmi les premiers à relayer l'information. Alors après, on peut derrière expliquer qu'il y a un complot. Bon, d'abord, pour une fois qu'un jeune pop change le monde, je trouve que c'est assez positif. Ça, c'est à mettre à leur actif. Mais sincèrement, s'ils avaient été les complotistes, est-ce qu'ils auraient été les premiers à sortir le truc ?
J'ai aucun souci là-dessus.
Arnaud Dacier, c'est un hasard s'il y a l'affaire de la Porsche, l'affaire des costumes, l'affaire de l'hôtel. Alors, moi, je relais un peu tout ce qui se dit sur Internet, justement, puisqu'on est là pour parler de toutes ces rumeurs. Les gens trouvent un peu bizarre qu'en 10 jours, on ait la Porsche, on ait le costume, on ait cette affaire dans le Sofitel, alors que jusque-là, on n'entendait pas énormément parler de DSK pour ces affaires-là.
Oui et non. Oui, c'est un hasard parce que voilà, c'est bon. Ouais. Non, parce que finalement, il y a assez peu de gens sur Twitter qui sont ultra actifs comme je peux l'être ou comme Guy Berenbaum peut l'être. Il y a une petite minorité de gens qui publient sur Twitter. Donc voilà, on n'est pas, c'est un petit monde, on n'est pas si nombreux que ça à l'utiliser à fond. Et deuxièmement, des tweeters politiques de droite, on doit les compter sur les doigts d'une ou deux mains.
Vous voulez dire que Twitter est de gauche ?
Jusqu'à maintenant, il y avait une certaine domination, oui, et je pense que les gens de droite étaient peut-être un peu timides par rapport à ça.
Edouard Filias, Twitter est de gauche ?
Il y a plus de gens de gauche qui sont des activistes sur Internet, ça c'est un fait sociologique. Mais justement, Atlantico en tant que média illustre peut-être un changement. Comme on le voit sur le web américain, on voit apparaître d'autres types de blogueurs, d'autres opinions politiques sur la toile.
Guy Birnbaum.
Je reviens, moi je suis désolé, je suis obstiné. Arnaud, est-ce que vous êtes maintenant remonté jusqu'à la source dans l'hôtel ?
Non.
Ça vous intéresse pas ?
Si, mais je n'ai aucun moyen pour y parvenir. Moi-même j'ai demandé à Jonathan Pinet.
Et vous Guy, vous êtes remonté jusqu'à la source ou pas ?
Peut-être.
Bah allez-y, dis-en plus alors.
Ah non, je vais pas lâcher un nom comme ça.
Non, mais sans
un
nom, mais ça veut dire que c'est un employé d'hôtel.
Sans
citer de nom, on est certain que c'est un employé de l'hôtel.
A priori, dans l'enquête que moi j'ai pu mener avec des camarades à moi, des camarades journalistes qui ont réussi à recouper, notamment grâce à des articles qui ont été écrits, il faut savoir que quelqu'un a dit « je connais ce garçon, je vous passe les détails, sur un mur, sur Facebook ». Et que donc ça nous a permis aux uns et aux autres d'essayer de faire des croisements et des connexions. Oui, je pense que je sais assez précisément, mais je ne peux pas donner son nom.
Donc ce que vous dites, pas de complot, tout est clair finalement.
Moi je pense.
Il y a peut-être un complot.
Non, ah bon, pour moi il n'y a pas de complot.
Parce que la théorie du complot, elle sort sur leposte.fr à 3h du matin.
Ah oui.
Et elle présente des faits détournés. Elle dit par exemple que j'ai effacé mon tweet alors que je ne l'ai pas effacé.
Un complot dans l'autre sens alors.
Oui, un complot renversé. À 3h du matin, c'est quand même troublant. Quelqu'un qui est anonyme, qui publie, qui s'inscrit 5 minutes avant de publier. Tous les journaux le lendemain reprennent cette théorie-là quasiment intégralement sans la vérifier, sans m'appeler, sans rien faire. Et donc je trouve que là les médias doivent s'interroger sur leur participation à la popularisation d'une théorie du complot qui est elle-même probablement une manipulation parce que je ne crois pas qu'on publie un article aussi détaillé, aussi fouillé et aussi, aussi malhonnête intellectuellement que celui qu'on publie à 3h du matin, juste par amour du buzz.
Édouard Filias, Internet et le Twitter aujourd'hui, c'est une source d'information ?
C'est une source d'information de première main. D'ailleurs, ouais.
L'AFP, mais dangereuse.
Dangereuse, non. Alors, ce qui change, c'est que vous n'avez plus, effectivement, de journalistes qui peuvent réguler le fait de passer ou pas une information.
Je suis désolé, c'est pas exact.
Dans un
les journalistes, ils sont sur Twitter. Je vais vous donner un exemple.
Je finis juste. C'est-à-dire que les journalistes, effectivement, ne sont plus aux premières lignes, mais ils sont sur Twitter. Corroborer ou infirmer l'information ensuite. Mais tout cela est quand même assez sain parce que. Avant, la presse retenait l'information et d'une certaine façon, ce type de théorie du complot prenait beaucoup plus longtemps à se développer quand elles étaient même connues la plupart des gens. Aujourd'hui, elles sont tout de suite connues.
Mais on peut montrer exactement le contraire. C'est gentil, Edouard, mais le contraire existe. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, apparaît sur Facebook un faux profil de la plaignante. D'accord ? Et ça apparaît vers 16h ou 17h en après-midi en... 10 minutes, tous les gens qui comptent un peu sur Internet, sur Twitter notamment, disent « mais non, c'est ce qu'on appelle un fake ». Le lendemain matin, ce portrait sort dans la Provence et est présenté dans la revue de presse d'une radio que je ne citerai pas parce que je suis charitable, comme le portrait de la plaignante. Donc, il faut arrêter de dire que c'est Internet qui véhicule la rumeur. Cette rumeur a été tuée sur Internet en 10 minutes et la presse nationale l'a reprise et la PQR l'a reprise directement.
On a un vrai souci là parce que...
Voilà un exemple.
Sur la Porsche, c'est le même problème. On a le Parisien qui publie la photo.
Absolument.
On a Emery Doliger qui la tweet. Moi qui la commente. Et ensuite, on a les médias qui nous racontent qu'il y a un buzz sur le web.
Des médias traditionnels.
Et
Arnaud
qui en profite pour déverser des analyses politiques sur une Porsche. Alors que pour le moment, les gens sur Twitter, ils font des blagounettes sur la Porsche.
Édouard Filias.
Non, je pense que Internet joue un rôle. Vous savez, le cadavre esquisse, c'était ce jeu auquel on s'adonnait à une certaine époque. On rédige un texte et puis chacun le complète et on raconte une histoire ensemble. On raconte des histoires ensemble avec Internet. Et c'est très agréable et c'est très drôle. Certaines de ces histoires sont parfois crues, parfois elles sont lancées intentionnellement par un certain nombre de personnes. Dans l'affaire Strauss-Kahn, en l'occurrence, les milieux d'extrême droite ont véhiculé ces derniers jours un certain nombre de théories du complot. Ils seraient probablement victimes d'une machination de l'ordre mondial qui voulait l'éliminer à cause de la révolution qui voulait
l'amener
à l'intérieur.
Chef,
FMI, dont il était déjà.
Je vous rappelle.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'Internet sert tout de même, du point de vue de la rumeur, du hoax, du faux, à amplifier, à donner corps à des histoires et à inventer des histoires invraisemblables.
Alors, le problème, c'est que ça prend dans l'opinion publique. Je parlais de ce sondage de lundi matin où on disait que 57% pensaient qu'il y avait un complot. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Pour vous, il y a complot ?
Oui, pour moi, il y a complot. Alors, ma théorie est la suivante. Monsieur Strauss-Kahn occupait un poste hyper important puisque il brasse au travers de cette organisation des milliards et des milliards de dollars. Il y a toujours un conflit sous-jacent américano-français où les Américains souhaitent récupérer de quelque manière que ce soit ce poste de directeur du FMI. Partant de là, moi la question fondamentale de ce dossier que vos journalistes n'ont même pas évoqué, c'est que dans un hôtel de cette catégorie, la femme de ménage n'est censée entrer dans la chambre qu'à partir du moment où l'occupant a remis ses clés à l'accueil. Donc, qui a donné l'ordre à cette femme de ménage d'aller faire la chambre de M. Strauss-Kahn ? Où y est-elle allée elle-même de son propre chef ? Enfin, pourquoi la met-on aujourd'hui au secret absolu avec des avocats qui sont en train de la briefer pour le procès ? Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui laissent, sous-jacer une organisation qui est derrière.
Est-ce alors, Guy Berenbonne vous répond, Joseph, rapidement.
Oh non, Joseph, je ne vais pas vous répondre parce que vous savez ce qui se passe, Joseph. On est dans le cadre d'une enquête criminelle et aucune des personnes qui sont présentes dans cette salle, ni même dans le pays, n'ont la moindre information à vous donner parce que nous ne les avons pas.
Ouais. On peut juste dire quand même qu'on remet dans ces hôtels-là, on ne remet pas les clés, on a des cartes magnétiques.
Voilà, c'est des cartes magnétiques.
Façon, et qu'on rentre, on sort, et on garde ses cartes et on ne remet jamais ses cartes à l'hôtel.
Et que ces informations changent sans arrêt.
Édouard Filias ?
Non, ce qui est singulier, c'est que quand il y a une théorie du complot, en général, elle est l'apanage de quelques happy few, une communauté de quelques-uns qui se dit il y a un complot, etc. Et puis ils se auto-confortent dans cette certitude. Avec l'affaire Strauss-Kahn, en tout cas sur le web, on a une majorité de gens qui pensent qu'il y a un complot. Alors, qui, comment ?
Pas sur le web.
Mais voilà. Ça, c'est à cause du web.
Mais ça, mais oui, d'une certaine façon, c'est la première affaire que
web,
je vois.
Non, c'est pas à cause du web. Arrêtez. Non, pardon.
À cause ou avec le
mais
web.
Mais non, c'est pas
cas.
À cause du web. Avec quand vous web. Avez des leaders socialistes qui viennent à la télévision et qui vous disent nous pensons qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une manipulation. Quand vous avez Christine Boutin qui vous dit ça, c'est pas le web, Christine Boutin.
Arnaud Dacier. C'est le web ou pas ?
Non, je pense que c'est le côté tellement incroyable de ces images, de cette situation, qui fait que les gens ne peuvent pas y croire.
Exactement.
Ils ont besoin de se raccrocher à une explication.
C'est sidérant.
Et finalement, la plus rationnelle est totalement irrationnelle, mais c'est la plus rationnelle, c'est le complot.
Merci beaucoup Guy Berenbaum, Arnaud Dassier, Edouard Filias d'avoir été avec nous. Guy Berenbaum, journaliste, Arnaud Dassier, ancien directeur de campagne web de Nicolas Sarkozy, actionnaire du site internet Atlantico, Edouard Filias, directeur de l'agence Images et Stratégie.